Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez, un rendez-vous toutes les deux semaines proposé par l'ADAVEM de l'Aveyron. L'ADAVEM, c'est, on le rappelle, l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Bonjour Justine.
Bonjour David.
Le plaisir de retrouver Justine Lacombe avec nous dans nos studios. Justine, on le rappelle, médiatrice diplômée d'État à l'ADAVEM 12, l'ADAVEM de l'Aveyron. Et Justine qui a eu envie de passer un coup de fil aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça. D'habitude, c'est ma collègue, mais aujourd'hui, c'est moi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui as-tu eu envie d'appeler et pourquoi?
Alors, j'ai voulu appeler mon collègue, enfin mon ancien collègue, de mon ancien travail dans le Tarn, donc Jean Batzer, qui est aussi médiateur familial et qui a été aussi mon référent de stage. Donc, c'est avec lui que je me suis formée à la médiation familiale.
D'accord. Bonjour Jean.
Bonjour.
Jean, petite question avant qu'on attaque les vrais sujets, quoique c'est un vrai sujet aussi. Justine, elle était comment pour son rapport de stage et... Allez-y, n'ayez pas peur.
Je m'attendais pas à la question. Non, c'était super. Moi, je crois qu'on s'est très bien entendu. On a tout de suite pu travailler ensemble sous forme de co-médiation. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure de cette pratique. Mm-hmm. Et j'ai trouvé très pertinente. Et d'ailleurs, elle a validé sans aucun souci suite à son stage et à tout le travail qu'elle a fait, son métier de son diplôme de médiateur familial.
Bon, t'avais eu quelle note, Justine? Tu te rappelles au rapport de stage?
Dans les 17 ou 18.
Ah oui, oui, donc ça va. C'était passé large.
Oui.
Bon, Jean, vous êtes vous-même médiateur diplômé d'État dans le Tarn, oui. Nous dit Justine. Alors, par contre, vous ne travaillez pas à l'ADAVEM.
Eh non, je ne travaille pas à l'ADAVEM. Moi, je travaille. Alors, j'ai un double statut. Je suis à la fois indépendant. J'ai un cabinet à Gaillac, dans cette belle ville gaillacoise. Là. Uh-huh. Et je suis également salarié pour une association qui s'appelle Tarn Espoir.
D'accord.
Qui est dans le Tarn également.
Ok. Et dans votre pratique quotidienne, que ce soit dans une structure ou dans l'autre, vous êtes sur des aspects particuliers de la médiation familiale que l'on découvre depuis plusieurs mois grâce à Justine et Lucia, ou vous êtes généraliste entre guillemets?
En fait, c'est difficile de se spécialiser à proprement parler dans la médiation familiale, puisqu'on ça va dépendre aussi de la demande des personnes. Mmh. On a forcément l'obligation, d'une certaine manière, d'être un peu généraliste et de pouvoir s'occuper de toutes les relations intrafamiliales. Mais après, moi, j'aurais quand même des tendances, des sensibilités, plutôt vers la médiation parents-adolescents et plutôt aussi vers l'accompagnement des parents, à la fois collectivement et individuellement.
Avant qu'on développe un petit peu ces thématiques, Jean Batzer, vous êtes un homme, hein, je crois que je ne dévoile pas grand-chose, enfin, si je me trompe, vous me dites. Est-ce que ça change beaucoup, d'après votre expérience, la pratique masculine de celle d'une Justine, par exemple, rien que le contact avec les familles, hommes, femmes ou les enfants, c'est différent un petit peu, vous avez noté, ou non, il n'y a pas de différence notable?
Alors, en termes de qualité pour être médiateur, je crois pas, ou médiatrice, je ne crois pas qu'il y ait de différence genrée, homme-femme. Mm-hmm. En revanche, les personnes ou les familles peuvent parfois rechercher plus la présence d'un homme ou d'une femme en fonction de ce qu'ils vont eux-mêmes supposer que pourrait apporter un homme ou une femme.
Eh oui, alors, c'est-à-dire
ça se passe plutôt comme ça. Moi, les retours que j'ai, c'est qu'il y a peu d'hommes dans ce métier.
Ouais. Vous êtes le premier que je crois que j'interviewe, vous, en tant que médiateur.
Ah, ouais. Vous allez voir, il y en a quand même de plus en plus.
Bon.
Et du coup, ça peut être recherché, enfin, la posture masculine peut être recherchée, notamment dans les relations parents-adolescents.
Mm-hmm. Par l'adolescent ou par l'un des deux parents?
Plutôt par le parent, je pense, a priori. Bon. Mm-hmm. Voilà. Donc voilà ce que j'en ai remarqué. Après, non, il n'y a pas d'avantage à être homme ou femme dans ce métier.
Tu confirmes, Justine, ou toi, tu notes des petites différences? C'est vrai qu'on a peut-être tendance à moins la ramener en face quand on a un bonhomme. Excuse-moi, Justine.
Non, mais je dirais comme Jean, je pense que c'est vraiment une pratique de chacun. Ce n'est pas forcément une histoire de genre. Mais c'est plus les personnes, des fois, en fonction de la situation qu'ils vont vivre, qui peuvent se sentir... Voilà, en tout cas, c'est une représentation qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent se sentir peut-être plus en sécurité ou plus à l'aise avec un homme ou avec une femme en fonction de leur situation, en fonction de leur vécu. Ça arrive des fois que les personnes disent « ben voilà, là je préférerais, quand ils ont le choix en tout cas, quand il y a un homme et une femme dans la structure, ça leur arrive de dire « ben là, moi je préférerais qu'il y ait un homme ou que ce soit une femme ». Ils peuvent éventuellement dire pourquoi, mais ça reste quand même assez rare en termes de demande.
D'accord, et quand on vous demande, vous y répondez autant que possible ou...
Alors, sur Rodez, pas forcément, parce que nous, c'est plutôt sectorisé en termes de, voilà, géographique. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Ça m'est arrivé, moi, ben, quand je travaillais avec Jean, éventuellement d'y répondre si j'avais la sensation qu'en effet, ça pouvait vraiment avoir un intérêt. Voilà, mais c'est pas forcément automatique, ça va être vraiment plutôt du cas par cas, j'ai envie de dire.
Alors, Jean, on attaque votre domaine particulier. Vous êtes donc médiateur familial diplômé d'État dans le Tarn, avec plus grande spécialité, on va dire, autour de la relation parent-ado et aussi entre les membres du couple, c'est ça ?
Alors également, entre les membres du couple, en effet. Parent-ado, moi je suis en train de, pour rester sur ce domaine-là, pardon, dans un premier temps, je suis en train de m'y intéresser de plus en plus. Et donc je développe une pratique parce que je trouve qu'il y a des besoins et il y a de plus en plus cette demande-là de la part des adolescents et des parents. Et du coup, il y a quelque chose à développer, un vrai intérêt pour éviter les ruptures relationnelles que l'on constate quand même parfois de la part d'adolescents qui refusent d'aller voir tel ou tel parent. Mmh. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour moi de me former plus spécifiquement à l'accueil de l'adolescent dans les difficultés qu'il rencontre pour l'aider à exprimer des choses par rapport aux parents avec lesquels il aurait du mal à être en relation. Donc, c'est vraiment un soutien d'élaboration de la pensée et de la parole de l'adolescent pour qu'il puisse l'exprimer aux parents avec qui il est en difficulté.
Alors concrètement, ça se traduit comment ça auprès de l'adolescent? Qu'est-ce que vous développez un peu comme technique?
En fait, c'est vraiment des techniques d'écoute. Tout à fait ce qu'on développe en termes de dans la médiation, d'écoute, de reformulation, d'analyse de la situation, de travailler la relation avec le parent absent, parce que je vais recevoir l'enfant quand même seul pendant quelques séances. Mmh. Donc je peux imaginer l'aider à faire comme s'il était en train de parler à l'autre parent pour voir ce qu'il avait besoin de lui dire. Et donc, je peux utiliser la technique de la chaise vide, hein, ce qu'on utilise souvent en médiation, c'est-à-dire qu'on personnalise une chaise vide comme étant l'autre parent et il s'adresse au parent comme s'il était présent. Je peux aussi utiliser des techniques de, on va dire, un peu plus narratives où l'adolescent va raconter ce qui lui est arrivé, raconter son histoire, et avec des techniques après de programmation neurolinguistique, on peut travailler sur ça. Je peux l'aider à comprendre ce qui s'est passé pour lui, à l'aider à vraiment élaborer sa pensée et mettre un peu plus de conscience sur ce qu'il est en train de traverser. Et également, ce qui est très important, le côté émotionnel, hein, l'accompagner dans l'accueil de ses émotions et l'élaboration et la compréhension de son émotion et de ses émotions et de leur fonctionnement.
Jean, ça fait longtemps que vous êtes médiateur familial dans le Tarn-Wyer. Ça fait combien d'années que vous exercez à peu près ?
Alors moi, j'ai mon premier diplôme de médiation, il date de 2006, donc ça commence à dater un petit peu. Ouais. Et mon diplôme de médiateur d'État, il date de 2014. Ouais, donc j'exerce, on va dire, simplement depuis on va dire une dizaine d'années. Quoi.
Oui, bah, ça commence à compter, ça fait de l'expérience accumulée. Du coup, à propos des adolescents, j'entends moi souvent parler des difficultés parents-ados et notamment depuis le Covid, quoi, l'après-Covid. Les jeunes, vous avez-vous aussi le sentiment soit qu'ils ont changé, soit qu'ils ont particulièrement souffert dans cette période? Il y a quelque chose qui s'est passé ou non finalement les techniques évoluent, mais un adolescent d'il y a 10 ans reste un adolescent d'aujourd'hui, grosso modo.
Alors, je ne suis pas un expert de la question de l'effet du Covid sur les adolescents, mais tout simplement ce que j'observe, de ce que je peux entendre auprès des collègues ou différents professionnels avec qui je travaille, les adolescents et les jeunes en général ont été particulièrement marqués par cette période du Covid et notamment par le fait d'avoir été séparés de la communauté ado. Hein. Souvent, ils ont été quand même séparés. Ils étaient en visio, ils étaient assez isolés. Donc, ça a été particulièrement marquant pour eux, mais pour les adultes aussi, en fait. Hein. C'est une période qui peut être vraiment considérée comme étant un effet d'arrêt, un effet de choc dans ce qui s'est passé. Après, je ne suis pas un spécialiste du développement de l'adolescent, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui a été fortement marquant pour eux dans la sociabilisation. D'autant plus pour des adolescents qui peut-être étaient déjà fragiles sur cette question-là. Ça a renforcé une forme de fragilité. Après, moi je crois que de manière générale dans les relations familiales, on sait que cette période de Covid et d'isolement des familles a quand même créé beaucoup de violence au sein des familles. Et là, on n'était pas préparé, je pense, ni les familles ni les professionnels à avoir à accompagner autant de situations complexes et difficiles du fait de ces violences.
Alors vous nous disiez, Jean, que parfois, c'était les adolescents qui vous sollicitaient. Moi j'ai envie de vous dire, non, Jean, c'est plutôt les parents qui contactent dans ces cas-là l'adolescent, il est dans son coin, non ?
Alors c'est pour ça que justement il y a pour moi l'intérêt de me former à ça, parce qu'effectivement c'est les parents qui vont plutôt tirer la sonnette d'alarme, ouais, et venir consulter soit un médiateur, soit un thérapeute. Hein. D'ailleurs ça peut être vraiment, il y a plein de profils qui peuvent intervenir. Par contre, il y a vraiment, quand les adolescents acceptent de venir, il y a vraiment un besoin de les aider doucement à élaborer et d'être en confiance avec eux, construire un lien pour qu'ils puissent petit à petit lâcher ce qu'ils ont besoin de lâcher, parce que c'est pas facile pour eux, enfin c'est facile pour personne, mais peut-être pour un adolescent encore plus, et du coup de vraiment l'accompagner dans l'élaboration de sa pensée à son rythme à lui et en fonction de ce dont il va avoir besoin. Donc c'est vraiment prendre le temps de l'écoute et de l'élaboration de l'adolescent, et après voir comment le parent aussi, avec lequel il y a une difficulté, peut accepter ou pas de venir discuter avec son adolescent.
Justine ?
Je voulais juste rebondir sur le fait que, par rapport à ce que tu disais, de les faire venir en fait en médiation. Nous, il y a un projet à la DAVEM d'intervenir dans les collèges pour faire de l'information justement auprès des adolescents, pour qu'ils aient connaissance de la médiation familiale et de la médiation parents-adolescents, justement, pour qu'ils se saisissent un peu plus de cet espace-là, parce qu'ils sont pas forcément au courant non plus en fait que ça existe. Donc c'est pas forcément évident qu'ils frappent à notre porte s'ils en connaissent pas l'existence. Donc voilà, c'est juste important, je trouve, aussi cette notion d'information directement auprès des adolescents à travers des actions, notamment voilà dans les collèges, ou auprès des professionnels qui interviennent auprès des adolescents, pour que cette information aussi circule et puisse eux-mêmes en fait se saisir aussi de cet espace, ou en tout cas interpeller leurs parents pour s'en saisir par la suite.
Jean, dans votre pratique, donc en général, quand vous intervenez dans des médiations parents-ados, c'est autour d'une séparation, pardon, j'imagine, le cas le plus courant.
Alors, le cas le plus courant, ça peut être des séparations, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi des parents qui ne sont pas séparés. Et ouais, dont j'ai le cas hier, par exemple, avec une jeune fille qui ne parle plus à son père depuis 7 ans, m'a-t-elle dit.
Ah ouais, quand même.
Mais ils vivent ensemble.
Ah bah d'accord.
Alors, ils vivent ensemble, hein, ils vivent dans la même maison.
Ouais,
donc
sympa.
On sent qu'il y a une grosse tension de l'ensemble de la famille. Donc là, il y a peut-être un travail systémique à faire après auprès des autres membres de la famille. Ouais. Mais il y a vraiment un travail à faire dans le lien de cette fille, de cette jeune fille, avec son père. Hein. Donc le papa est d'accord, la maman aussi est d'accord. Donc tout le monde est d'accord pour se mettre au travail. Voilà, donc dans un premier temps, on va enclencher un travail de médiation entre le père et cette jeune fille.
D'accord. Et l'adolescente est d'accord aussi ?
L'adolescente est tout à fait d'accord, oui, absolument. Okay. Elle est même elle a une grande demande, du coup.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Parce que le quotidien, comme ils cohabitent, comme ils vivent ensemble, le quotidien est quand même assez lourd.
Bah oui.
Bon, généralement, on est quand même sur des situations, là c'est un peu extrême comme situation, c'est assez rare, surtout qui a duré autant de temps, parce que ça peut arriver quand même dans le quotidien, mais généralement ça dure moins longtemps, on réagit plus vite. Mais généralement, on est quand même dans les situations de séparation.
Ouais.
Où il y a un enfant qui peut tout d'un coup décider de ne plus aller chez l'autre parent. Et donc là, il y a un travail à faire sur de remédiation et de renforcement du lien entre l'adolescent et ses deux parents.
Ouais.
Une clarification un peu, voilà, dans le cas de la séparation. Et c'est aussi un troisième cas dans l'hypothèse de recomposition familiale, où il y a parfois des situations complexes avec des familles qui se recomposent. Donc oui, tout d'un coup, ces adolescents découvrent un beau-père ou une belle-mère, découvrent des demi-frères, demi-sœurs. Enfin, voilà, il y a tout un contexte qui peut être, on va dire quoi, bouleversant pour un enfant, pour un adolescent. Il peut avoir besoin de venir déposer aussi un certain nombre de choses dans le fonctionnement de ce nouveau groupe, famille recomposée, quoi.
Justine et Lucia, toutes les deux médiatrices à la DAVEM de l'Aveyron, nous ont déjà parlé à plusieurs reprises des médiations parents-adolescents. Et en nous précisant qu'on était un petit peu dans des cas particuliers, parce qu'en général, l'enfant n'est pas convié à une médiation, l'adolescent, c'est autre chose, il peut y participer, enfin, il est même convié à y participer. C'est aussi ce que vous vivez, vous rencontrez ?
Alors oui, le principe de la médiation, c'est plutôt d'accompagner les parents dans, on va dire, l'organisation de leur nouvelle famille du fait de la séparation. Il y a d'autres cas, hein, qui concernent la médiation familiale, mais quand même la majorité du temps, c'est ça. Donc dans ce cadre-là, organisationnel, les enfants ne sont pas forcément conviés à prendre des décisions. En tout cas, ils peuvent donner un avis, hein, on peut les entendre, on peut les écouter, mais ils ne vont pas être décideurs, puisqu'on va les laisser à leur place d'enfants ou d'adolescents, et c'est les parents qui vont prendre les décisions, qui vont penser juste pour eux, leur famille et leurs enfants. Donc ça, c'est effectivement important. Mais il se trouve que parfois, on peut avoir intérêt à à inviter un enfant. Moi, une des situations, par exemple, c'était une jeune fille qui, dans le cadre de la, enfin, c'est dans le cadre d'une séparation de ses parents. Les parents se parlaient pas trop et elle a commencé à prendre de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère. Et en fait, on a fait une médiation. Donc cette jeune fille, elle s'est retrouvée, elle a accepté de venir en médiation. Elle s'est retrouvée avec ses deux parents à expliquer ce qui s'était passé pour elle quand elle avait fait ça. Et en fait, elle a jamais dépensé cet argent.
Ah bon?
Non. Et du coup, c'est intéressant qu'elle le prenne sans le dépenser. Et du coup, elle a pu le rendre du coup, à ses parents.
Ouais.
Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'est que ses parents ont pu se positionner ensemble en tant que coéducateurs par rapport à cette jeune fille et la reprendre ensemble en lui disant ben, voler, c'est pas bien, prendre, voilà, faire ce genre de choses. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, ils ont pu me dire ensemble face à l'enfant. Donc là, c'était intéressant. Que les parents se retrouvent ensemble dans cette médiation pour pouvoir, ça n'a duré qu'une séance, hein, face à l'enfant pour reposer un cadre duquel l'enfant n'avait pas respecté, quoi. Donc ça peut être des cas comme ça où l'enfant peut trouver intérêt à venir en médiation et on peut ensemble, les parents et le médiateur ou la médiatrice, trouver intérêt à faire participer l'enfant dans un but précis. Toujours avant de recevoir un enfant, moi je pose toujours cette question, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? On va recevoir cet enfant en médiation. Parce qu'une fois qu'on aura sa parole avec nous, qu'est-ce qu'on va en faire de cette parole? Donc c'est bien de le savoir à l'avance pour pas faire jouer tout et n'importe quoi aux adolescents ou aux enfants quand on écoute en médiation.
Alors la médiation, donc, c'est plusieurs intervenants, en plus du médiateur, les parents, les enfants, les beaux-parents, la famille élargie au sens large. Dans toute cette organisation, cette structure, pour vous, il y a un maillon, entre guillemets, hein, il y a un maillon faible. On a tendance à penser, un maillon faible, l'adolescent c'est celui qui est le plus malléable, donc sur lequel on va peut-être le plus travailler quand on est médiateur, ou non, je me trompe, c'est le père, parce que les pères sont généralement moins présents que les mères, ou les mères parce qu'elles sont plus attentives. Je caricature, hein, excusez-moi Jean. Dans cette organisation-là, dans ce... pas ce huis clos, mais dans ces médiations, c'est quoi le maillon faible ou la personne sur laquelle vous travaillez le plus?
Alors moi, je le vois pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que je vois pas de maillon faible. Tout le monde fait du mieux qu'il peut là où il en est en fonction de qu'il a comme possibilité d'agir à ce moment-là, d'accord ? Donc ce que moi en tant que médiateur, et je pense que mes collègues diront à peu près la même chose, ce sur quoi je vais apporter vraiment mon attention, c'est sur la manière dont les gens vont être en relation ensemble. Donc en fonction de leur relation, on va essayer d'ailleurs, pas moi, mais on va essayer ensemble de trouver des réponses, on va chercher des choses à faire, des choses à expérimenter pour que les relations s'apaisent et pour qu'ils trouvent un fonctionnement qui leur corresponde dans le présent, aujourd'hui. C'est-à-dire parce que, évidemment, si j'ai un couple séparé avec des enfants de 4 et 5 ans, ben, dans 10 ans, les enfants auront 14 et 15 ans et probablement l'organisation va devoir évoluer et bouger. Donc ce que nous, on va regarder et ce que moi, sur quoi je fais attention, c'est que les parents acquièrent une forme de, moi je l'appelle comme ça, de maturité relationnelle, à nouveau, hein, soient à nouveau capables de prendre des décisions ensemble et de faire évoluer leur fonctionnement et leur organisation familiale en fonction des besoins des enfants, certes, mais aussi des parents, et en fonction des possibilités. Hein, parce que si je travaille, si je fais des 3-8, si je travaille de nuit, de jour, etc., si j'ai des agendas très chargés, moi, l'organisation, ma flexibilité n'est pas la même que si j'ai un travail qui est moins chronophage, par exemple.
Eh oui.
Donc on fait attention à toutes ces données-là pour essayer ensemble de trouver des fonctionnements qui correspondent aussi à ce que les personnes pensent bien pour eux. Hein, parce que ça, c'est important. Je ne pense pas à leur place. D'accord, je peux les aider à penser, mais ce qui est important, c'est que c'est eux pensent pour eux et décident ce qui va être bien pour eux.
Justine Lacan, on vous rappelle que tu es médiatrice familiale diplômée d'État à la DAVEM de l'Aveyron et que Jean Batzer, notre invité aujourd'hui, était ton responsable de stage. Hein. Qu'est-ce que tu as appris avec lui?
Ça serait difficile à dire parce qu'au final, j'ai, je vais pas dire que j'ai tout appris avec lui, mais presque au final. Après, j'étais en formation quand même à côté, mais j'ai surtout pu observer une posture et une pratique professionnelle qui, au moins aujourd'hui, est assez similaire de la mienne. Et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup appris à travers nos co-médiations. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive beaucoup à me saisir des outils qu'on a pu comédier ensemble. Et aujourd'hui, je m'enrichis encore de nos échanges. On n'a plus de comédiation ensemble. Ça fait un moment, en tout cas. Mais je continue à m'enrichir avec lui à travers voilà, des échanges qu'on peut avoir sur nos différentes pratiques et sur les différents outils qu'il peut y avoir. C'est vrai que... On a des points communs aussi dans le côté collectif. On aime bien aussi, en dehors de la médiation familiale, être sur des actions collectives. Il aime beaucoup l'animation de groupes de parole, moi aussi. Donc ça, c'est dans un autre cadre que la médiation familiale, mais en étant dans une posture malgré tout de médiateur. Et on avait le projet qu'on n'a pas encore réussi à aboutir, de justement, pour faire le lien avec les adolescents, de faire un groupe de parole d'adolescents, de parents séparés. Et de le co-animer du coup ensemble dans le Tarn. C'est vrai qu'on se, je me retrouve beaucoup avec Jean dans sa pratique sur la manière d'utiliser, dans la posture et dans les outils qui peuvent être utilisés. Donc on continue à s'enrichir mutuellement dans ces échanges-là, même si on travaille plus ensemble dans le quotidien, dans l'association dans laquelle on était avant.
Jean, c'est quoi ces groupes de parole là, que vous proposez, mais pas dans le cadre d'une médiation familiale ?
Alors, ça part d'une réflexion que j'ai eue, parce que souvent, quand les médiations n'arrivaient pas à se mettre en place, ouais. Je trouvais que les femmes avaient plus de ressources que les hommes en termes de... Bon, la médiation ne se met pas en place, mais j'ai des personnes que je peux aller voir, avec qui je peux travailler. Je les trouvais plus à même de... En tout cas, dans ma représentation, hein, ouais. Plus à même de se proposer des voies de sortie du fait de l'impasse de la médiation. Je crois que les hommes étaient plus démunis à cet endroit-là. Ouais. Et donc, en 2015, j'ai eu l'idée de développer une pratique de groupe de parole d'hommes, de manière générale, être homme, être père, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi plus spécifiquement des groupes de parole sur la question de la séparation. Et donc, je les ai ouverts dans un premier temps au groupe d'hommes. Et donc, je proposais à des hommes de se rencontrer un vendredi soir par mois, ouais, pour discuter de leur séparation.
D'accord. Et ça donne quoi, ça ? Je suis un peu curieux, parce que bon, excusez-moi, mais on caricature, hein, mais les hommes dans une salle pour parler, on a tendance à se dire, bon, on va entendre les mouches voler, là.
Alors, oui, il y a tout un travail à faire d'accueil et de création de rapport avec ces hommes-là, et donc d'animation du groupe de parole. Donc ça, c'est ce que moi j'ai appris à faire, hein. Je me suis formé à ça, pour vraiment permettre à ces hommes d'échanger sur leur situation, d'écouter l'autre aussi, hein. Donc on fait attention au temps de parole, au rythme de parole, donc il y a beaucoup de temps d'écoute, et après on va faire un écho sur ce qu'on a entendu. Donc en gros, ça ressemble à un partage d'expérience, si je peux le schématiser de cette manière-là, au travers des différentes étapes que l'on peut rencontrer dans le cadre d'une séparation. Donc parfois, ils ont parlé de comment choisir son avocat, comment accueillir son enfant lors du passage de bras. Est-ce qu'on doit éviter de mal parler de l'autre parent quand on est très en colère en présence des enfants ? On vient vraiment aborder toutes ces questions-là, toutes les questions qu'ils rencontrent dans les difficultés, parce qu'en général, c'est des séparations, qui sont conflictuelles un petit peu, ouais. Et du coup, ils viennent aborder ces questions-là. Et moi, je fais très attention à accueillir leurs émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour eux à ce moment, c'est quoi l'émotion pour eux, et de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour répondre à leur émotion. D'accord. Parce que souvent, ils vont accuser la mère, par exemple, d'être je sais pas quoi. Et moi, je dis non, ne parlez pas de madame, on va parler que de vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous à cet endroit-là ? C'est quoi votre émotion ? De quoi vous avez besoin ? En tant qu'homme, en tant que père, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et donc, ça permet vraiment de recadrer à chaque fois et de laisser les mamans tranquilles. On est vraiment entre hommes, entre pères qui se séparent. Et du coup, on parle de nos difficultés de père. On laisse l'autre parent tranquille. C'est aussi pour éviter l'écueil d'une tentation, je dirais, un peu masculiniste dans ces groupes-là. Donc, il fait très attention. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Hein. Ah oui. Et quand d'ailleurs certaines personnes avaient une tendance à aller dans ces directions-là, ils sont pas restés très longtemps sur le groupe, parce que moi, je recadre systématiquement en ramenant sur eux. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous ? Laissez l'autre tranquille.
Ouais, vous voulez dire qu'il y a certains hommes qui arrivent pas à... qui remettent toujours la faute, c'est la faute des femmes. Même pas de leurs femmes, c'est les femmes en général. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, ça peut être ça. Il peut y avoir une forme de généralisation, ouais. parce que par exemple, ils vont dire, ben, j'ai été jugé par une magistrate, mon avocate, ouais. c'était une femme. Ouais. Voilà, je vois tout le temps des femmes. S'il y a une enquête, ben, c'est une enquêtrice, etc., etc. Et donc, ils peuvent développer une forme de colère, ouais. face aux femmes en général. Donc, qui, à mon avis, mal placée. Et donc, j'essaie de recadrer, accompagner cette personne dans et dans l'aider à voir autrement la situation. Parce qu'au-delà de femmes, ce sont d'abord des professionnels, et donc elles se positionnent, ces personnes, en tant que professionnelles, pas en tant que femmes.
Ah oui, oui. Ouais, ouais. Alors les OB, c'est bien ça. Bon, ils peuvent avoir toute leur responsabilité, être vraiment complètement fautifs dans le cadre d'une séparation, bien sûr, évidemment. Mais bon, c'est pas forcément toujours le cas, et puis les choses peuvent être un peu plus partagées. Et là, je reviens à mon histoire de maillon faible de tout à l'heure. Ouais, l'homme, c'est pas un peu le maillon faible dans ces... dans ce type, dans la médiation, parce qu'on n'est pas élevé pour comme ça, nous, les hommes, d'une façon générale,
Alors, je suis un peu gêné par l'expression maillon faible, c'est-à-dire que on en est tous là où on en est. Non, mais c'est pas grave. Mais on en est tous là où on en est, et donc peut-être que les hommes ont de manière générale, hein, pas tous évidemment, ont un apprentissage peut-être particulier à faire dans le cadre de la séparation. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des hommes qui vont apprendre à être père sans la mère. Et donc, ça change quelque chose dans la posture du père, du coup. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, par exemple, dans une résidence alternée, ou même s'il y a quelque chose de plus classique, un week-end sur deux, ils vont se retrouver un temps, plus ou moins long, à seul avec leur enfant, et ils vont devoir tout faire. Mmh. Et donc là, on va mesurer, et c'est sans doute valable aussi pour les mères, hein, ses parents, mesurer tout ce que faisait l'autre parent quand ils étaient ensemble. Mmh. Et donc, il y a une prise de conscience aussi intéressante à aller chercher. Et des pères qui vont aussi devoir monter en compétence d'une certaine manière sur leur parentalité. Par exemple, ils vont devoir faire ce que faisait l'autre parent. Par exemple, on a fait un échange dans un groupe de parole, un monsieur qui disait « C'est la première fois que je vais avoir mes enfants à la maison pour organiser un goûter. Comment je fais pour organiser un goûter avec mes enfants ? J'ai jamais fait ça. » Et donc, les autres pères ont dit « Attends, c'est très simple. Il y en a un qui a donné la recette du cookie que tu peux pas rater. L'autre, ils ont en fait rassuré cette personne parce que c'était pour nous dire « T'inquiète pas, avec les enfants, ça va bien se passer. Un goûter, c'est facile, pas de problème. » Bon, et après, on a accompagné ce monsieur, donc il est resté longtemps sur le groupe, et puis il partait en vacances avec ses enfants, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Il a pris la mesure de ce qu'il avait à faire.
Jean, ces groupes de parole d'hommes en particulier que vous proposez, que vous organisez, dans ces cas-là, vous rassemblez combien de personnes ? C'est des groupes de combien ?
Alors, je peux avoir, en termes d'inscrits, je peux en avoir jusqu'à une quinzaine à peu près inscrits sur le groupe. Par contre, on est toujours à 6, 8 maximum en présentiel, puisque déjà, je ne suis pas toujours sur les semaines pair-impair, donc ça peut changer. Les hommes ne sont pas toujours disponibles au même moment. Et puis, j'essaie de ne pas avoir quand même trop de personnes, parce qu'après, on perd en termes de qualité d'échange. C'est un groupe qui dure 2 heures, 2 heures et demie, donc si on est 8, c'est déjà bien.
Et ces groupes de parole, ils durent combien de temps ? On est sur du long, moyen terme ? C'est des rendez-vous réguliers ? Comment ça marche ?
Alors, c'est un rendez-vous par mois, un vendredi soir par mois. Donc, par contre, ça, c'est à Toulouse, par une autre structure qui s'appelle Espace Médiation ID, qui est une association avec laquelle je collabore. Et donc, on travaille une fois par mois, un vendredi soir. Et ça dure 2 heures, 2 heures et demie.
D'accord. Et les hommes qui participent, ils sont volontaires, mais on peut aussi vous les avoir, entre guillemets, amenés. Comment ils aboutissent là ?
Alors, oui, il y a plusieurs types d'orientation. Ça peut être par rapport au réseau toulousain. Donc moi, j'ai sollicité évidemment le réseau de la médiation familiale. J'ai aussi sollicité la CAF, puisqu'on est subventionné par la CAF et le département. Donc il y a plein de travailleurs sociaux qui peuvent aussi qui ont cette information et qui peuvent orienter sur ces groupes. Et puis après, j'ai aussi moi une connaissance dans un réseau aussi d'avocats, et donc j'ai des avocats qui orientent des hommes-là, et puis par le bouche à oreille. Ça commence, puisque ça existe depuis 2015 maintenant, ou 2017. 2017, voilà, pour être précis. Et donc ça commence à être un petit peu connu. Voilà. Et j'ai développé d'autres pratiques aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont participé à ces groupes et qui ont dit, bon, nous, on a bien discuté entre nous, c'est bien, mais on aimerait bien discuter avec des femmes séparées également. Et j'ai monté des groupes mixtes, du coup, parents séparés.
D'accord.
Je ne prends pas les anciens couples.
Ouais, voilà, c'est des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont tous le point commun d'être séparés.
Absolument.
Ok. Voilà.
Et donc j'ai un groupe en visio et j'ai un groupe en présentiel, donc un groupe en visio le mercredi soir, un mercredi soir, et un groupe en présentiel un vendredi soir.
Ça a parformé les couples, votre histoire là ?
Alors peut-être c'est la troisième étape, je ne sais pas, en tout cas c'est pas trop le but pour moi, oui. Mais ça, c'est juste une précision, c'est que ce groupe en présentiel, et je le co-anime avec une femme, Marjorie Boraz, qui est psychologue de formation. D'accord. Et donc on a le double regard psycho et médiation, et du coup c'est intéressant, et surtout homme-femme, donc on met de la mixité dans l'animation pour pouvoir aussi avoir de la mixité dans le groupe.
Ah oui, c'est bien. Justine, vous ne faites pas vous des groupes de parole à la DAVEM de l'Aveyron ?
Alors pas pour le moment, après il y en a un en projet, vu que moi j'ai été formée au groupe de parole pour les enfants et adolescents de parents séparés. Le but c'est qu'il y ait un projet à la DAVEM dans ce sens-là. D'accord. Donc avec les adolescents. Après, mon collègue Pascal a eu mené aussi des groupes de parole de pères. À un moment donné, mais sur le secteur de Millau, Millau Saint-Afrique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi être mises en place. Après, voilà, quand c'est au sein d'une association, il y a tout le côté subvention, voilà, et le côté dossier qui demande un peu plus de d'investissement et que s'il n'y a pas forcément le budget derrière, c'est pas forcément possible de le mettre en place. Après, moi, exerçant aussi un libéral sur le Tarn, comme Jean, j'anime aussi des groupes de parole, mais pas forcément pour l'instant spécialisé en termes de séparation, voilà. D'accord. Mais de manière plus générale.
On arrive bientôt au terme de cette émission sur CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale avec la DAVEM de l'Aveyron, association d'aide aux victimes et de médiation. Jean Batser est l'invité de Justine aujourd'hui. Jean est médiateur familial diplômé d'État dans le Tarn, dans plusieurs structures, et puis dans le Tarn et en Haute-Garonne, hein, puisque vous nous avez précisé que ces groupes de parole, vous les proposiez à Toulouse notamment. Jean, dans votre métier, dans votre pratique, qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Moi, ce qui me plaît, c'est de... En fait, c'est pas un travail routinier. C'est-à-dire que chaque situation est unique et je suis obligé de vraiment essayer, parce que parfois j'y arrive pas, mais en général, quand même, je m'en sors. C'est de trouver la clé ou les clés, permettre avec les personnes pour amener du mieux-être dans la situation et dans les relations. Donc c'est à chaque fois nouveau. C'est-à-dire le processus, on le connaît, il est à peu près schématisé. Par contre, le contenu est toujours nouveau. Ouais. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Et vous avez vu que j'ai plusieurs domaines d'intervention. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du tout routinier.
C'est bien, c'est vrai que c'est sympa. Tiens, d'ailleurs, Jean, est-ce que vous êtes très réseaux sociaux ? Il y a moyen de vous suivre, vous publier des trucs concernant votre pratique, votre métier ?
Oui.
Ouais.
Oui, un petit peu. Moi, je suis sur LinkedIn, principalement, et un peu Facebook également.
On tape Jean Batser ?
Oui, et vous allez me trouver, oui.
Batsere. C'est bien ça.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean, pour cette émission. Et voilà votre angle de vue sur ce métier de médiateur familial. Et puis ce cas particulier aussi des groupes de parole que vous proposez, notamment à des hommes et en route Garonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter une bonne journée.
Oui, également, merci beaucoup.
Avec plaisir. Tiens, dernière question. Bon, vous à Toulouse, c'est peut-être mieux, dans le Tarn aussi d'ailleurs, mais enfin, nous, la météo, c'est la cata. Hein. Depuis le mois de novembre, c'est la cata. Bon, donc tout le monde déprime. Enfin, bon, moi en tout cas, oui, et je suis pas le seul. Ça a une influence, ça, quand on dit le printemps, il fait beau, ça compte pour des bonnes médiations ou pas ?
J'ai pas fait d'études réellement sur l'impact de l'ensoleillement, mais c'est sûr que ça peut jouer sur le moral de manière générale. Après, moi, j'essaie de développer le soleil intérieur. Du coup, on va essayer de le. Ouais, j'essaie de partager ça.
Comme
donc,
c'est beau.
Donc, cette énergie-là.
Et ben, ça sera le mot de la fin, Jean, parce que là, je trouverai pas mieux. Hein, le soleil intérieur, là, si Justine, t'as quelque chose à ajouter non.
Je reconnais bien Jean. Voilà, bon, c'est tout.
Bon, merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous sur CFM, au plaisir. Merci beaucoup Justine d'avoir été invité Jean dans cette émission cette semaine sur CFM. Et puis à très bientôt avec ou sans soleil. Hein.
Avec toujours du soleil dans tous les cas.
Avec, oui, le soleil intérieur. Allez, merci Jean, merci Justine.
Merci David.
Merci, au revoir.